on attend avec impatience vos réflexions sur notre sujet du jour, dans votre petite philosophie de la vie quotidienne.
Oui, Ali, je me dis que toute cette pollution, tous ces pesticides, toutes ces substances chimiques auxquelles nous sommes exposés, repose au fond sur un drôle de paradoxe. Voyez plutôt, si nous polluons, c'est que notre activité a de plus en plus d'impact, et c'est parce que cette activité est augmentée de tout un tas d'innovations techniques et technologiques et de tout un ensemble de connaissances. Nos connaissances en chimie, par exemple, sont formidables et nous permettent de concevoir des tas de produits ou d'applications qui nous rendent plus puissants et en meilleure santé. Et pourtant, cette puissance-là, elle pollue. Elle a aussi des effets négatifs et elle nous empoisonne et elle va jusqu'à menacer cette santé et notre survie. Le paradoxe, c'est donc que cette puissance-là révèle en creux notre grande fragilité, notre grande vulnérabilité.
C'est donc, Thibault, que le progrès technique n'est pas toujours un progrès pour l'humanité.
Oui, ça veut dire qu'il faut distinguer progrès et innovation. Parce que, avant de pouvoir dire qu'une innovation est un progrès, encore faut-il en évaluer les conséquences. L'urbaniste et penseur Paul Virilio faisait remarquer, par exemple, que quand on invente l'avion, eh ben on invente en même temps la catastrophe aérienne. Et que quand on invente la centrale nucléaire, on invente exactement en même temps l'accident nucléaire. Autrement dit, que toute innovation d'une nouvelle technologie est en même temps innovation du risque de son échec. De quoi nuancer une certaine fascination de l'innovation. Mais la conséquence de cette complexité, elle est surtout morale. Puisque nous nous découvrons de plus en plus vulnérables, il nous faut de plus en plus nous rendre attentifs à cette vulnérabilité et de plus en plus nous en charger. Les conséquences écologiques de nos innovations et de nos activités ne sont pas néfastes seulement pour de lointaines générations futures ou seulement pour de tout aussi lointains grands équilibres de la planète, mais très directement pour la saine continuité de notre vie. Un des effets de cette grande prise de conscience écologique que nous vivons actuellement est de nous rendre plus attentifs aux soins que nous pouvons prendre les uns, les autres, des équilibres naturels et finalement de nous-mêmes. Nous pouvons transformer la découverte de notre vulnérabilité en force morale pour prendre davantage soin de nous, soin des autres, soin de notre environnement naturel ou non, bref, soin de notre vie. Alors vous savez, parfois, et à l'écoute de cette émission, peut-être, on se sent un peu impuissant. On ne sait pas vraiment ce que notre simple action individuelle pourrait changer ou améliorer. On se sent impuissant parce qu'on n'est pas bien sûr de pouvoir être responsable d'une quelconque amélioration de la situation. Mais c'est parce que la question de la responsabilité est un peu un piège. L'expérience de notre vulnérabilité peut nous conduire à agir en se libérant de cette pression de la responsabilité, en se souciant simplement du soin que nous pouvons prendre les uns et les autres dans l'ordinaire de nos vies, et peu importe si nous ne sommes pas ceux qui appuyons sur les boutons et qui sommes responsables. L'antidote à tous ces poisons de l'injonction permanente à la performance et à l'innovation technique, c'est de se souvenir de la fragilité de toute notre humanité.
La petite philosophie de la vie quotidienne de Thibault de Saint-Maurice, nos invités ont envie de réagir. Barbara Domenech.
Ah ben, oui, c'est sûr qu'on se sent plus vulnérable, mais l'action individuelle peut avoir des effets. Si je peux, disons, placer maintenant, il faut voir quand même que la résolution qui a été passée par le Parlement européenne, donc le 18 avril, a été basée à 95% sur les recommandations de notre rapport qu'on a fait avec Rémi Slama et qui reprenait ces recommandations pour une meilleure réglementation des perturbateurs endocriniens à travers tous les secteurs où on peut les trouver. Et donc, c'est passé à 447 voix à 14. Donc, c'était massif. Et donc, ça, c'est le Parlement qui a été élu. Et maintenant, tout le monde a participé aux élections européennes, j'espère. Bon, anyway.
Henri Boulier.
Oui, moi je voulais dire un mot justement sur ces questions-là. Il y a quand même des solutions qui sont envisageables. Il y a un rapport qui est sorti il y a pas très longtemps, là le 16 mai, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est une commission qui réunit l'Assemblée et le Sénat. Il y a eu un travail d'un an par une équipe de sénateurs et de députés français qui a été conduit. Il y a un excellent rapport qui est sorti. Il a été recensé, je crois, par Sylvestre Huet. Sur les blogs du Monde, et on y trouve des choses assez intéressantes, et notamment 13 recommandations sur des manières de faire évoluer la manière dont travaillent les agences européennes ou les agences françaises, et notamment donner plus de moyens à la recherche publique.
Fabrice Nicolino.
Alors, moi, j'ai apprécié ce que vous avez dit. Vraiment, merci. Je suis pas d'accord avec vous, Henri et Barbara, parce que vous parlez d'impuissance dans votre chronique. Mais non, l'heure de l'impuissance, c'est terminé. Mmh. Et c'est pas, je m'excuse, mais l'heure des rapports, je m'excuse, ou des déclarations de Parlement européen, c'est passé. Il y a une solution pour moi qui se dessine tout chaque jour plus clairement, c'est l'insoumission, c'est-à-dire la désobéissance civile, qui est une arme majeure, pacifique, non violente, démocratique. Il faut se lever. Et le mouvement des coquelicots, vraiment que j'ai l'honneur de présider, c'est précisément l'action, la désobéissance. La société doit désobéir aux ordres, doit désobéir à la hiérarchie, doit désobéir au gouvernement et à l'État et se mettre à agir pour défendre ses intérêts. Le mouvement des coquelicots, c'est ça. Il faut nous rejoindre. Hein.